Bonsoir, comment allez-vous? Cette semaine, j'ai failli assister à un meurtre. Sur l'autoroute, nous étions arrêtés dans un embouteillage quand une voiture est arrivée par la droite sur la voie d'arrêt d'urgence, puis s'est faufilée rapidement pour venir s'installer pile devant la voiture qui était devant moi. Le conducteur qui venait de se faire carotter a klaxonné, puis a émis des gestes très clairs de mécontentement. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais le vilain, celui qui avait doublé tout le monde, a sorti son bras par la fenêtre pour répondre par un geste obscène. Il avait une magnifique voiture allemande, très chère et très neuve. Alors que celui qui venait de se faire avoir avait une vieille voiture un peu déglingue. Est-ce cette différence qui a amplifié sa rage? En tout cas, il est sorti comme un diable pour se jeter sur le malhonnête, l'a extirpé je ne sais comment de sa voiture et l'a tabassé copieusement. Juste derrière, je me demandais que faire. La femme de l'attaquant est sortie. Moi aussi. Je pensais qu'elle allait se diriger vers son homme. En fait, elle s'est dirigée vers moi et m'a dit « Et pourquoi qu'on se fout jamais sur la gueule, nous les femmes ?»
Bonjour, je m'appelle Louise et j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi, en général, les filles sont plus douces que les garçons. Merci de répondre à ma question. Au revoir.
Elisabeth Bramy, pourquoi les filles sont plus douces que les garçons? Je me demandais si c'était Louis ou Louise. Je deviens peut-être sourde en vieillissant et vous m'avez dit non, ça doit être Louise.
Ah, c'est forcément Louise parce que c'est Louise qui peut poser cette question parce qu'aucun garçon ne se demandera pourquoi les filles sont plus douces. Je pense que c'est pas être féministe à outrance que de dire que la culture de la douceur des filles et justement du côté de la culture et de l'éducation. C'est-à-dire que ça fait partie des préjugés, de ce qu'on appelle des stéréotypes et des clichés. Les filles, dès la première minute où elles sortent du ventre de leur mère, il faut que tu saches Louise ou Louis, et aux deux je parle, de toute façon ça fera du bien aux gars de le savoir, c'est qu'une fille n'est pas prise dans les bras, n'est pas habillée, n'est pas considérée de la même façon qu'un garçon. Mais ça n'a rien à voir avec une volonté des parents. C'est juste parce que les parents, ils répètent ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Si on regarde autour de soi, on verra qu'une fille, on lui met des habits pour faire joli. On joue très vite à la poupée avec. Les petits gars, on trouve que c'est très charmant quand c'est débraillé, parce que ça fait sport.
Ça fait viril.
Ça fait viril, ça fait aventurier.
Ça fait homme des bois.
Homme des bois. Alors, l'homme des bois et la fille, elle est derrière les fourneaux, il faut qu'elle soit bien proprette. Elle va d'ailleurs être d'une douceur formidable puisque on va lui offrir une petite mallette pour faire le docteur, de préférence l'infirmière, parce que docteur, c'est déjà du masculin. Et puis, elle va bien soigner les petits bébés. Et puis, si son petit frère tombe à côté, c'est elle à qui on demandera de l'aider. Il faut qu'elle soit dévouée. Dans tous les livres de lecture, j'ai une collection de livres de lecture du siècle dernier. Il y a des grandes sœurs qui s'occupent du reste de la famille, qui sont des petites mamans. On se demande où est la mère. On n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a le choix. On peut être une fille costaud. On peut être une fille qui fait même de tous les sports, de tous les métiers. On peut s'habiller de toutes les couleurs qu'on veut.
Donc, en fait, vous dites, Elisabeth Bramy, que les filles ne sont pas plus douces que les garçons.
Elles ne
que
sont
les garçons
pas.
Sont aussi doux que les filles.
Et les garçons sont aussi doux. Simplement, on réfrène chez eux cette douceur. On les traite de femmelettes ou d'omelettes. Les parents eux-mêmes, et après, dans les cours de récré, les garçons, on leur interdit de pleurer quand ils sont tristes, dans beaucoup de familles encore, et c'est catastrophique, parce qu'il faut bien que la tristesse sorte sous forme de larmes aussi, et ça ne veut pas dire qu'on est un minus parce qu'on a des sentiments. Les garçons, ils sont de tendres papas, surtout quand on leur a donné des poupées quand ils étaient petits parce qu'ils en avaient envie et qu'ils savent bercer un bébé aussi bien largement. Et les filles, elles sont très très capables aussi de faire des choses,
de prendre des décisions,
de mettre des étagères avec des perceuses électriques et autres choses soi-disant viriles qui ne l'en sont pas.
Elisabeth Bramy est psychologue clinicienne. Elle a écrit chez Pocket Jeunesse « Je suis timide et alors ?». Vous trouverez ses autres titres sur le site des Petits Bateaux. Vous connaissez le principe des Petits Bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des savants pour leur répondre. Voici les questions qui ont été posées ce soir. Pourquoi ne peut-on pas toucher la reine d'Angleterre? D'où vient la lave qui sort des volcans? Et pourquoi la fête des amoureux tombe-t-elle le jour de la Saint-Valentin? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Allô, je m'appelle Louise, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas d'arbres sur la Lune. Merci.
Bonsoir Louise. Ernst Surcher, vous avez écrit « Les arbres entre visibles et invisibles » chez Actes Sud. Vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences, enseignant et chercheur. Et « Il n'y a pas d'arbres sur la Lune », demande Louise.
Magnifique regard, Louise, en direction de notre voisin la Lune qui nous rejoint jour et nuit, visible la nuit. Pourquoi pas d'arbres sur la Lune? Il pourrait presque y en avoir, en fait, parce que sur la Lune, il y a de l'eau. On le sait trop peu, mais il y a de l'eau, mais une atmosphère extrêmement peu dense, extrêmement ténue. Mais ce qu'on pouvait lire dans ce Tintin Objectif Lune de 1954 était en fait prémonitoire. Et c'est par la suite qu'on a découvert qu'il y a effectivement de l'eau, comme c'était décrit dans cette aventure
ça,
de Tintin.
Ça, c'est drôle.
Et c'est à peu près à partir de l'an 2000, il y a quelques années seulement, qu'on a vraiment pu avoir la certitude qu'il y a vraiment de l'eau sous forme de glace sur la Lune.
Oui, mais sous forme de glace, l'arbre, il peut s'en arranger de la forme de glace.
Voilà. Donc, l'eau est essentielle à la vie, mais il faut aussi une atmosphère, il faut du gaz. Et là, ça ne suffit pas sur la Lune. C'est pour ça que je disais, ça pourrait presque fonctionner.
Ouais, donc, il y a de l'eau. C'est ça le magnifique.
Il y a de l'eau sur la Lune, mais il n'y a pas d'arbre sur la Lune pour le moment. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a de la Lune dans les arbres. Et là, c'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup accompagné pendant toute ma carrière de chercheur et qui continue de m'accompagner, de m'inspirer. J'ai travaillé en chronobiologie sur les rythmes lunaires dans les arbres. On a fait des tests de germination, on a repris des études de physiologie des arbres, on a fait des essais sur l'abattage des arbres et sur les propriétés des bois. Et chaque fois, on a pu, avec toute la statistique scientifique nécessaire à bien traiter le sujet, attester l'existence de cycles lunaires dans le fonctionnement des arbres, dans la physiologie, dans les propriétés des matériaux, y compris même les flux électriques dans les arbres, des électrodes sur les arbres fluctuent en fonction des marées lunaires. Donc il y a énormément de lune dans les arbres, même s'il n'y a pas d'arbres dans la lune.
C'est joliment dit, Ernst Surcher est édité chez Actes Sud. Vous pouvez réécouter cette réponse, les autres aussi d'ailleurs, sur franceinter.fr.
Tonight, I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay here. Tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. Oh,
Madness, c'était My Girl.
Les petits bateaux sur France Inter.
Aujourd'hui, nous sommes le 10 février, donc jeudi, nous serons le 14, jour de la Saint-Valentin. Cette date correspond aussi, cette année, à la fin des soldes. Attention aux soldes, elles sont grisantes, surtout à la fin, avec les 70% de remise. Alors, la question est, pour ne pas regretter son geste, aurais-je eu envie de ce truc s'il n'avait pas été en solde? Peut-on faire d'ailleurs un cadeau de Saint-Valentin avec un objet soldé? Bah, pourquoi pas, si le cœur y est. J'ai entendu dans un restaurant, un soir de Saint-Valentin, justement, un homme dire à sa douce « Chérie, prends ce que tu veux, je ferai une note de frais. »
« Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 11 ans, je voulais savoir pourquoi la fête des amoureux est célébrée le 14 février et non le jour de la Saint-Modeste ou la Saint-François. »
Effectivement, Marie-Odile Merniac, vous qui êtes versée dans les noms et les prénoms, pourquoi Valentin ?
C'est tout à fait surprenant parce que si on regarde qui était Saint-Valentin, il n'a rien à voir avec les amoureux. C'était d'abord un prêtre, un martyr du 3e siècle.
Pas un séducteur.
Voilà, a priori, rien à voir du tout avec les affections du cœur. Alors, il y a plusieurs faits qui ont convergé quand même pour que ce jour soit celui des amoureux. En Lorraine, mais c'était la seule région de France qui le faisait, depuis le Moyen-Âge, on appelait les amoureux des Valentins et des Valentines. Là, c'était un peu le cas. En Angleterre aussi, comme les oiseaux commencent à faire leur nid vers mi-février, on avait pris l'habitude d'utiliser le jour de la Saint-Valentin depuis longtemps comme jour des amoureux.
Mais c'est drôle cette histoire de Valentin-Valentine en Lorraine, comme nous on dit mon Jules.
On disait mon Valentin, c'est ma Valentine, c'est mon Valentin. Dans le nord de la France, on disait c'est ma blonde.
Oui, ah bon,
c'était
comme
différent, on utilisait Québec, ce terme-là, oui. Comme au Québec. Et alors en France, c'est apparu, ça s'est généralisé en fait pendant l'entre-deux-guerres, mais pour des raisons très prosaïques, c'est une fête créée par les confiseurs, parce qu'ils ne vendaient plus de chocolat entre les fêtes de Noël et les œufs de Pâques. Donc, ils ont cherché un jour qui était à peu près à mi-chemin entre les deux fêtes, mi-février.
Avant le carême.
Avant le carême. Et ils ont lancé cette idée de fête des amoureux pour vendre des chocolats, sans doute en forme de cœur d'ailleurs, souvent, à ce moment-là. Et avoir à nouveau des clients.
Marie-Odile Merniac est généalogiste. Elle a écrit un livre qui va sortir le 13 février, mercredi prochain, « Le secret du soldat allemand ». C'est l'histoire de la petite Camille qui découvre une vieille valise dans le grenier de ses grands-parents. Cette valise a appartenu à un malgré-nous, un Alsacien enrôlé de force dans l'armée allemande. Camille aimerait rendre cette valise aux descendants de cet homme, car il y a quelque chose dedans. Mais comment retrouver leurs traces? Le secret du soldat allemand de Marie-Odile Merniac chez Rajo.
Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 7 ans, j'aimerais savoir d'où vient la lave qui sort des volcans.
D'où vient la lave qui sort des volcans? Demande Léa. Christophe Vigny.
La lave qui sort des volcans, elle vient de l'intérieur de la Terre. La Terre, il faut comprendre un peu comment elle est faite. C'est presque comme un oignon. Il y a des couches successives qu'on peut peler les unes après les autres pour voir ce qu'il y a dedans. Alors la surface de la Terre, qu'on appelle l'écorce terrestre, c'est pas très épais, ça fait quelques dizaines de kilomètres, entre 0 et 60 kilomètres suivant les endroits. Et en dessous de ça, il y a ce qu'on appelle le manteau terrestre, qui lui est beaucoup plus épais. Le manteau terrestre, il fait 3000 km d'épaisseur. La Terre fait 6400 km de rayon. Donc ça veut dire que la moitié de la Terre, c'est ce qu'on appelle le manteau terrestre. Et c'est fait de roches qui contiennent essentiellement un composant qu'on appelle la silice ou le silicium. Donc c'est des roches silicatées. La roche la plus fréquente ou la plus abondante, c'est une roche qu'on appelle l'olivine, qui a une jolie couleur verte. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et on peut faire des bijoux avec l'olivine quand on en trouve à la surface de la Terre.
Wow.
Alors, justement, pourquoi on en trouve à la surface de la Terre? C'est parce que ce manteau terrestre, parce qu'il est chaud, il est toujours en mouvement. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, c'est du caillou, c'est rigide. Mais comme c'est chaud et que ça subit des forces qui sont très importantes, les pressions qui règnent à l'intérieur de la Terre sont très grandes, si vous appliquez une grande force pendant très longtemps, des millions d'années, sur un caillou fait d'olivine, même pendant très rigide, pendant très longtemps très fort, il va se déformer. Donc le manteau terrestre se déforme tout le temps, c'est ce qui donne la tectonique des plaques. Et il est chaud à cause de la radioactivité naturelle, des isotopes radioactifs, comme par exemple l'uranium, qui se trouvent dans ces cristaux de roche, qui les chauffent. Et à certains endroits, parce que tout ça est hétérogène, c'est un mot compliqué, hétérogène, ça veut dire que c'est pas homogène, ça veut dire que c'est pas bien mélangé le manteau terrestre, il y a des endroits où il y a un peu plus ou un peu moins de ceci ou de cela, donc il y a des endroits un peu plus chauds. D'où l'accumulation de chaleur qui va créer des endroits qui sont presque liquides. En tout cas, nous, on va dire visqueux.
D'accord.
Comme un pot de miel, si vous mettez du miel au micro-ondes, il va devenir liquide. Si vous le chauffez, il va devenir liquide. Là, c'est pareil avec le manteau terrestre. Si vous arrivez à le chauffer assez, il va devenir presque liquide, voire liquide. Et la lave qui sort des volcans, c'est ça. C'est la matière à l'intérieur du manteau terrestre, ces roches fondues par la chaleur. Alors, suivant leur composition, suivant qu'au départ elles soient un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, suivant leur température à laquelle on les a chauffées, elles vont être plus ou moins liquides. Il y a des laves qui sont très liquides, qui font des éruptions magnifiques, celle de l'Etna par exemple, ou du Stromboli, où on voit ces éruptions la nuit avec ces jets de lave, où on a aussi par exemple le volcan Hawaï. Et puis, des laves qui sont plus visqueuses, plus épaisses, qui vont s'écouler moins bien, qui vont faire des bouchons, qui vont exploser, quand le volcan aura accumulé une trop grosse quantité de ces laves-là. Et là, il y a des exemples, par exemple aux Antilles, en France, de volcans qui explosent de temps en temps.
Christophe Vigny est directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure de Paris.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie. Tu es toujours seul, oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Le spleen n'est plus à la mode, chantent Angèle et son frère Roméo Elvis. C'est vrai, il faut être heureux maintenant. Alors qu'autrefois, si on était heureux, on n'était qu'un benêt ignorant des nobles tracas du monde.
Bonjour, je m'appelle Mina et j'ai 10 ans et j'aimerais savoir pourquoi ne peut-on pas toucher la reine d'Angleterre. Merci de me répondre, au revoir.
Alors, la question de Mina, pourquoi ne peut-on pas toucher la reine d'Angleterre? Vous en parlez dans votre dernier livre, Stephen Clark, comme ça vous dites-vous?
Oui.
Dites-le-moi.
Oui, c'est Stephen Clark.
Presque. Qui s'appelle Élisabeth II ou l'humour souverain et c'est édité chez Albin Michel. Alors, pourquoi ne peut-on pas toucher la reine d'Angleterre? Est-ce que c'est vrai d'abord ce que demande Mina?
C'est un peu vrai, surtout selon les journaux britanniques. On ne va pas être exécuté si on touche la reine, mais c'est vrai que...
C'est une chance.
C'est vrai que les journaux britanniques s'excitent beaucoup si, par exemple, un chef d'État ose toucher la reine. Je me souviens encore de... Je suis encore traumatisé par la visite de la reine à Paris en 2004, je me souviens qu'elle était accueillie par le président Chirac, qui en fait... En fait, a pris son bras, il a touché le coude. Alors, les journaux anglais ont dit, mais c'est quoi ce français séducteur qui touche la reine? C'était une grande excitation.
Ah, c'était très cavalier.
C'était trop. On fait pas ça à la reine. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à l'embrasser ou quoi? Mais c'était pas la première fois parce que, aussi, il y a assez longtemps, il y avait un premier ministre australien qui a osé faire la même chose. Il a même mis le bras autour de des épaules de la reine pour l'accueillir quelque part. Et les journaux anglais étaient en furie. Ils l'ont surnommé « The Lizard of Oz ». C'est une blague un peu compliquée, mais « The Wizard of Oz », c'est le sorcier de Oz dans le film. Et « Lizard », c'est un lézard, et « Oz », c'est l'Australie. Donc, ils l'ont appelé un lézard parce qu'elle a osé toucher la reine. Et c'est vrai que normalement, on n'est pas censé, par exemple, serrer la main de la reine sans quand elle vous propose. Et aussi, elle porte toujours des gants. Et on pense donc qu'elle ne veut pas être touchée. Mais en fait, ça, apparemment, c'est pour des raisons d'hygiène. Parce qu'elle, dans sa carrière, où elle rencontre plein de gens tout le temps, elle serre la main. Elle a apparemment serré la main à des centaines de milliers de gens. Mais il y a des vieilles traditions avec la reine qui changent un peu. Elle modernise. Apparemment, maintenant, on n'a plus absolument besoin de faire une révérence devant la reine. Normalement, on est censé l'appeler votre majesté ou ma'am, comme madame, ma'am. Ça, les gens le font par respect.
Dans votre livre, vous expliquez qu'elle faisait la révérence petite fille à son grand-père.
Ah oui, parce que son grand-père était roi. Et donc, tout le monde, même les enfants de la reine, lui font une révérence devant elle, parce que les enfants respectent absolument le protocole parce que c'est leur raison d'être, leur raison de vie. Moi, une fois, j'ai rencontré une seule fois un membre de la famille royale, c'était un duc de quelque chose qui était cousin de la reine. Moi, je le savais pas vraiment, et on me l'a présenté, et moi, j'ai juste dit, genre, « Hello, how are you ?»« Bonjour, comment ça va ?» Et j'ai senti que le vieux type, il était hyper crispé par cette personne qui n'avait pas de respect. C'était une sorte de gaffe, mais personne n'est venu m'arrêter et je ne suis encore pas dans la tour de Londres. Donc, c'est pas grave.
C'est une chance parce que les livres de Stephen Clark sont bien drôles. Événement ! Depuis l'arrivée de Stephen Clark au petit bateau, Donald Trump, je ne sais pas s'il a touché la reine, je ne crois pas, mais il est arrivé 12 minutes en retard à un rendez-vous. Avec quand même une dame qui a plus de 90 ans, il ne s'est pas incliné et il lui est passé sous le nez en lui tournant le dos. Alors que personne ne tourne le dos à la reine, même pas son mari. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr. Maxime Agrand et Jean-Baptiste Audibert et Liane Girard, Marjorie de Voucou, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Et pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulle, mon petit loup.